Radio Barque, rebonjour à nos invités pour cette deuxième partie et le sommaire où on va encore rester un tout petit peu sur les régionales et sur ce que l'on appelle dans cette émission la Sorel Story.
Oui, en fait, Sorel, pas tout à fait. Enfin bon, oui, j'ai fait un billet.
Ah, il a fait parler de lui.
Oui, il a fait partie de lui, mais là, en l'espèce, je voudrais insister sur ce qui s'est passé, en fait, et qui est très important. À savoir que, il y a au mois d'avril, le maire de Montpellier-Sorel, enfin, bon, qui soutenait, mais qui n'était pas le chef d'orchestre de ce dossier. Un dossier qui s'appelle IDEX. D'ailleurs, bon, c'est la constitution de ce qu'on appelle un pôle de référence universitaire et de recherche au plan national qui permet de bénéficier d'importantes subventions de l'État. Bon, ce pôle constitué sous l'égide de la région, hein, candidaté pour avoir ce label IDEX, et ils se sont fait ramasser.
Bien comme
alors,
il faut.
Oui. Sévèrement. Comme il faut, donc, pas au niveau. Alors évidemment, c'est un jury international qui a décidé de cette affaire-là. Première. Le problème, c'est que dans la bagarre de leadership avec Toulouse, c'est que Toulouse, depuis 2012, a le label IDEX. Mmh. A le label IDEX et avec mention.
Là, donc, cette semaine. Politiquement, ça s'annonce mal. Quoi.
Donc ça fait déjà 1-0 hein, au bénéfice de Toulouse. Cette semaine, mois d'avril, deuxième en fait, initiative régionale, deuxième dossier, le contrat de destination, tourisme. On présente le dossier, et là, crac, rebelote, recalé, en fait, bon, dossier mal fagoté, mal financé, en fait, etc. 2-0 au profit de Toulouse, sur deux en fait, domaines. La recherche d'enseignement supérieur, la région Languedoc-Roussillon est la quatrième région de France en la matière. Par son potentiel d'enseignant-chercheur. Et le tourisme, donc deux domaines sur lesquels la région prétend effectivement avoir le leadership dans la future grande région. S'être fait ramasser comme cela, alors que Toulouse a déjà engrangé pour la recherche et récemment sur le tourisme, ça fait quand même beaucoup. Alors le plus rigolo dans cette affaire-là, enfin le plus rigolo, on rejoint quand même, hein, c'est que le co-signataire, plutôt la co-signataire de cette notification du refus du contrat de destination présenté par la région, c'est Madame Carole Delga, c'est-à-dire celle qui va conduire effectivement la liste avec son copain Damien Lallery, l'actuel président de la région de Roussillon, socialiste et allié aux prochaines régionales. J'avoue que quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ça, les bras m'en sont tombés. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que personne, ou en tout cas dans la presse régionale, ça n'est fait l'écho.
Oui, ils n'ont peut-être pas vu la subtilité de la manœuvre.
Oui,
ou de la situation.
Alors peut-être que l'ego de nos compatriotes languedociens en a tellement pris
oui,
un coup dans cette affaire-là.
Souffert que,
qu'effectivement, bon, ils font profil bas, ils sont sous le lit.
On a fait dans l'omerta.
Mais ce n'est pas comme cela, effectivement, que l'on se sort des situations difficiles. Et Damien Lallery qui présentait la marque Sud de France comme la future grande marque touristique et agricole de la grande région.
Ouais. Et alors, quant à la deuxième capitale.
Il a l'air malin aujourd'hui.
Ouais. Et quant à Montpellier, deuxième capitale de la région, là, c'est mal barré. Je crois que finalement, on n'aura pas besoin du canal du Midi pour acheminer les documents administratifs, comme je le proposais dans la dernière émission.
À Dodane, peut-être.
Oui, peut-être. Bon. Alors, revenons sur Narbonne et le dernier conseil municipal qui a vu, c'est classique, quelques affrontements.
Oui.
Sur un thème précis, celui des subventions aux associations narbonnaises.
Oui, alors là, il faut dire quand même deux choses. Hein. C'est que sur les orientations budgétaires de Didier Mouly et de son équipe, à savoir diminuer les subventions, enfin diminuer
les dépenses
hein,
en général.
Et notamment les dépenses de fonctionnement, sans toucher fait, à la fiscalité, donc au pouvoir d'achat, c'est ni plus ni moins que l'application de la politique souhaitée, voulue et menée par l'actuel gouvernement.
Mmh. Oui, bon. donc là, il est dans une logique.
Il est dans cette logique, d'autant que le dit gouvernement, pour inciter les collectivités locales à moins dépenser,
donne
beaucoup moins de sa dotation globale de fonctionnement.
Oui.
Donc, conclusion, dans ce genre de ces situations, les conseils municipaux n'ont pas d'autre solution que, à structure en fait, de dépenses égales,
de diminuer
effectivement
les
dépenses, et notamment les dépenses de fonctionnement. Donc, sur l'orientation, il n'y a rien à dire. Par contre, là où il y a beaucoup à dire, c'est sur effectivement les conditions d'attribution et les conditions d'attribution à ces dites associations. Quand même, à Narbonne, 160 associations bénéficient de financements apportés par le contribuable. Donc, le moins qu'on pourrait en fait, poser comme principe, c'est que les associations qui devraient en bénéficier de ces subventions devraient avoir un intérêt minimal en termes de services publics entendus au sens le plus large possible. De sorte que l'on peut s'interroger avec ce genre de critères sur le fait de savoir si, par exemple, au dernier conseil municipal, l'association de tarot, en fait, de Narbonnaise, ou l'association des pétanqueurs du club Saint-François, ou
l'association de je ne sais quoi, amis, là, hein,
bon,
amis,
était hein. légitime à recevoir des subventions. Première remarque. Donc, c'est sur les modalités d'attribution et les finalités des associations qu'il faut surtout insister et qu'aurait dû, de mon point de vue, insister l'opposition pour porter sa critique.
Mais le problème est ancien d'ailleurs. Il date même pas de Didier Mouly et de son équipe.
Et en plus, Jean-Claude, c'est pas un problème droite-gauche, cette critique-là, je pourrais la faire aussi au conseil municipal voisin de dirigé par les Républicains, par je ne sais quel groupe centriste. C'est un phénomène quasi général dans ce pays. Les associations, souvent dans ce genre de situation, ne servant que de caution, en fait, ou de relais à des positions partisanes, ce qui en soi n'est pas très quand même bon convenable. Ouais. Deuxième remarque, dans cette affaire-là quand même, de détails, mais pas que de détails. La justification apportée par Didier Mouly en fait, et sa majorité, à savoir que, justement, il fallait diminuer le budget global des associations parce qu'on y était contraint compte tenu de la politique du gouvernement. Quand même. Si on fait les comptes, c'est une diminution du budget des associations de 78 millions d'euros sur un budget global.
78 000 euros. Alors précisons quand même pour être objectif.
Sur un million.
Que c'est le travail fait par l'opposition qui n'engage que l'opposition.
Qui n'engage que l'opposition. Mais faisons le pari quand même qu'ils ne sont pas trop trompés, quoi. 78 000 euros sur un budget de 1 million d'euros.
Oui.
Sauf démenti de l'actuel maire. C'est peanuts. Et quand à côté de ce lab, on entend dire par la même opposition, je ne vais pas vérifier, mais qu'il avait été recruté 13 personnes supplémentaires par l'actuelle municipalité, on fait la balance, 13 salaires, moins 78 millions en fait aux associations, je ne suis pas sûr qu'au final, on était effectivement diminué les dites dépenses de fonctionnement.
Oui, et puis il semble qu'il y a eu un système de vases communicants, un certain nombre effectivement d'associations, soit perdant entièrement leur subvention, soit la voyant baisser.
Évidemment.
Certaines autres gagnant évidemment dans ce système de vases communicants.
Ce qui confirme ou ce qui apporte un argument de plus à ce que je viens de dire à l'instant.
Voilà, et ce qui a apporté de l'eau au moulin, si je puis dire, de l'opposition qui s'en est pas privée. Alors ensuite, pour conclure cette deuxième partie, l'agglo.
Oui.
Ce qui est la suite logique à chaque fois.
Alors, à l'agglo, il n'y avait pas. Bon, voilà.
L'agglo, le Grand Narbonne.
Le conseil communautaire se réunissait jeudi.
Oui,
jeudi. À l'ordre du jour.
Marathon.
À l'ordre du jour, toute une série.
Marathon administratif.
Voilà, toute une série de dossiers de type administratif qui n'ont pas soulevé l'indignation de l'opposition de Didier Mouly et de ses colissiers, puisque c'est le seul groupe d'opposition qui s'oppose frontalement à tout ce qui est proposé par l'actuelle majorité de Jacques Bascou. Mais par contre.
Mais ça bouge dans les groupes.
Mais ça bouge dans les groupes et ça bouge à la périphérie. Alors, je crois que, comme le conseil communautaire s'est terminé très tard, je crois 21h30, etc., parce que c'était pas forcément le moment. Henri Martin ne l'a pas annoncé officiellement, mais je pense qu'il va le faire dans les 8-10 jours qui viennent, donc on en reparlera la semaine prochaine. Mais va se constituer un nouveau groupe au conseil communautaire qui résultera de la disparition du groupe piloté par Michel Py et de l'addition d'Henri Martin et de tous ses proches, des proches de Sivan et des proches d'ailleurs. Et il amène avec lui quand même Henri Martin et poids lourd. Hein, il amène le maire d'Armissant qui est vice-président en charge de tout
Monsieur
ce qui est
Gérard Kerr Fizer,
et quand même la vice-présidente en charge des finances, quoi, Madame Durand, qui est la maire de Sainte-Vallière. Donc, un groupe qui, je crois, s'intitulera, en fait, si je suis bien informé, mais je pense l'être, divers droites et non inscrits. Alors, les raisons sont bien compréhensibles. On ne pouvait pas imaginer que sur la longue durée, il n'y ait pas une clarification quand même idéologique faite dans cette agglo. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Henri Martin et ceux qui le suivent ont bien dit fait à l'actuel président qu'il n'était pas question de remettre en cause leur loyauté fait à son égard. Donc, il est assuré, Jacques Bascou, d'avoir du soutien fait dans ce groupe pour être toujours fait aux manettes de l'agglo.
Et ça sera une expression différente.
Ça permettra effectivement un petit recul critique de ce groupe qui lui permettra peut-être de s'opposer, de faire valoir son point de vue critique sur certains dossiers de manière beaucoup plus significative. Et puis il y a les régionales qui viennent, donc ça permettra aussi de les mettre un peu plus à l'aise à tous ces communautaires qui forcément ne veulent pas ou ne souhaitent pas être pris en otage par l'actuel président de l'agglo, étiqueté quand même parti socialiste.
Voilà. Eh bien, une deuxième pause publique. publicitaire avant de passer sur cette troisième partie à l'interview de nos invités, dont je rappelle qu'ils sont aujourd'hui Daniel Hernandez et Yannick Séguier.